Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal présenté par Gisèle Cage.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute. Voici votre journal d'information. On commence tout de suite avec le grand titre de ce jeudi. L'Union africaine s'engage pour la mise en œuvre de l'accord de Washington à Yokohama. Le président de la Commission de l'Union africaine a annoncé la création d'un secrétariat à Addis Abeba pour accompagner le processus entre la RDC et le Rwanda en présence de la Première ministre Judith Suminwa. Rentrée scolaire 2025-2026. Les écoles et les parents se préparent activement entre achat des fournitures et organisation dans les établissements. La rentrée du 1er septembre mobilise déjà les parents, élèves et enseignants. Luc Nzao nous fait découvrir les coulisses de cette reprise. Invité du journal, Miguel Massaï Sayo, ce cycliste congolais engagé, partage son projet Pédaler pour la paix, une initiative personnelle pour promouvoir la paix en RDC après avoir parcouru plus de 5000 kilomètres entre Goma et Cape Town. Ouverture du journal Diplomatie régionale en mouvement, l'Union africaine s'est dit prête à accompagner la finalisation et la mise en œuvre de l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est ce qu'a déclaré mercredi à Yokohama au Japon le président de la Commission de l'Union africaine, Mamadou Ali Youssouf, lors d'une rencontre avec la Première ministre Judith Suminwa. Il a précisé que l'Union africaine prépare l'installation d'un secrétariat à Addis Abeba pour piloter ce processus conformément aux décisions prises lors de la dernière réunion des chefs d'État des communautés de l'Afrique australe et de l'Est, SADC EAC. Les précisions avec Alain Irung.
Les facilitateurs choisis apporteront leur soutien au médiateur de l'Union africaine, le président Faure Gnassingbé. Concernant le processus de paix de Doha, le président de la Commission a précisé que l'Union africaine fait partie des différents comités mis en place et a été invitée à Doha dès le début du processus. Nous avons insisté pour qu'il n'y ait pas de prolifération d'initiatives qui ne servent pas l'intérêt d'une cohérence nécessaire. Il est essentiel de créer une synergie pour renforcer la confiance sur le terrain, obtenir un cessez-le-feu et ensuite mettre en œuvre un éventuel accord. Nous serons là pour aider à la mise en œuvre de cet accord, a précisé le président de la Commission de l'Union africaine.
Venons-en à présent à ce rapport d'Amnesty International. L'Organisation internationale de défense des droits humains accuse dans un nouveau rapport la rébellion du M23, les combattants Ouazalendo ainsi que des éléments de FARDC de graves violations de droits humains et de droit international humanitaire intitulé RDC. Ils nous ont dit qu'on allait mourir. Les exactions du M23 et des Ouazalendo dans l'est de la RDC. Le rapport documente des exécutions sommaires des civils, des viols collectifs des femmes et d'autres abus qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le condensé de ce rapport avec Jeff Ngoy.
Des hôpitaux attaqués, des patients enlevés, des membres de la société civile torturés et disparus de force. Le rapport décrit dans le détail la militarisation croissante dans l'est de la RDC, le M23 ayant pris le contrôle de vastes zones de la région et les Ouazalendo, ayant reçu de grandes quantités de munitions et d'armes fournies par les FARDC. Si tu ne veux pas, on te tue. Rapporte Amnesty, précisant que sur 14 survivantes de violences sexuelles du Nord Kivu et du Sud Kivu, avec lesquelles elle s'est entretenue, 8 ont affirmé avoir été violées en réunion par des combattants du M23, 5 par des Ouazalendo et 1 par des soldats des FARDC, entre les mois de mars et de mai 2025. 5 victimes auraient déclaré à l'Amnesty avoir subi des viols sur des sites militaires du M23. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent, l'ONG appelle le Qatar à faire pression sur le M23 afin que cessent ces violences. Elle demande aux États-Unis d'exhorter l'État congolais à identifier les auteurs de ces crimes dans les rangs de tout combattant des groupes armés et des forces de sécurité.
Kinshasa, la journée mondiale de l'aide humanitaire a été célébrée ce mardi 19 août. À l'occasion, le club de droit de l'homme de l'université de Kinshasa, en collaboration avec le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA, a organisé une rencontre axée sur les violations de droits humains dans les zones de conflit en RDC. Les échanges ont notamment porté sur le rôle des acteurs humanitaires dans l'application du droit international face aux défis sécuritaires persistant. Reportage signé Josué Kefebe.
Cette conférence a servi de cadre pour les organisations humanitaires en tant qu'acteurs d'expliquer aux étudiants ce qu'ils font dans les zones de conflit, comme le souligne Wasi Kambale, représentant de l'OCHA.
Donc ce que les humanitaires font, c'est les monitoring, poursuivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout ce qui peut avoir un impact sur les opérations humanitaires au pays. Nous faisons les dialogues avec les leaders communautaires dans les communautés, nous discutons, nous travaillons avec des journalistes locaux, des radios communautaires.
Malgré cela, les groupes armés demeurent auteurs des exécutions sommaires, évoque Ombe Katechina, représentant de BCNIDH. Blaise Ayouka, représentant du secrétaire général académique à l'UNIKIN, a insisté sur l'obligation pour toutes les parties au conflit de protéger les civils comme le prévoit le droit international.
Comment protéger la vie des êtres humains en situation de conflit armé? On fait allusion au droit international humanitaire et il s'applique dans ces contextes ici le principe de distinction, le principe de proportionnalité. Lorsque les belligérants, les personnes à conflit, mènent une guerre, ils doivent mettre à l'écart la population civile qui ne fait pas partie des objectifs militaires.
Président du club des droits de l'homme de l'UNIKIN, Dani Kazali, a salué cet échange qui leur a permis de se rapprocher de la réalité du terrain, des acteurs humanitaires et d'avoir des réponses sur leurs préoccupations.
Dans la province de la Tchopo, une campagne pour le mieux vivre ensemble a été lancée mercredi par la MONUSCO en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, l'UNESCO et le gouvernement, prévu pour durer 7 jour. Cette initiative a été présentée au siège du BCNUDH en présence des membres de la société civile, des médias audiovisuels et de la presse écrite locale. Quel est le but de cette campagne et comment est-elle perçue par le cadre de concertation de la société civile? Élément de réponse dans ce reportage signé Jacques Moukonkolé.
En cette période des conflits armés, certaines personnes distillent le discours de haine, soit consciemment, soit inconsciemment, déclare Sylvain Massoudi Modimbi, expert en droits de l'homme du bureau de terrain du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La présente campagne vise la lutte contre ce genre de discours qui sème la division au sein des communautés, souligne-t-il.
Nous avions connu un conflit intercommunautaire Mbole-Lengola où le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et la MONUSCO nous sommes impliqués à fond dans la résolution pacifique de ces conflits-là qui a abouti à l'organisation du grand forum sur le développement de la Tchopo et au processus de réconciliation entre les deux communautés Mbole et Lengola. Nous nous sommes dit que inscrivons-nous dans la durée, dans l'accompagnement de ce processus de réconciliation.
Conscient des effets négatifs engendrés par le discours de haine, les leaders des communautés Mbole et Lengola exhortent leurs bases respectives à vivre dans la cohésion et l'unité. Cet appel est apprécié positivement par le président du cadre des concertations de la société civile de la Tchopo, Alphonse Longongo.
Le message ici, cette campagne est à point nommé pour renforcer encore leur liens et les inviter à travailler les uns et les autres pour que les communautés vivent en paix et que cela soit le bénéfice qui va aller tout droit pour nos populations.
Cette campagne qui a débuté ce mercredi à travers les médias audiovisuels prendra fin mardi prochain. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Enseignement, un regard sur la rentrée scolaire qui approche à grands pas, fixée au 1er septembre prochain, conformément au calendrier de l'année scolaire 2025-2026. La rentrée mobilise déjà les écoles prêtes à accueillir anciens et nouveaux élèves. Du côté des parents, l'heure est au préparatif, achat des fournitures scolaires, mais aussi rappel à l'ordre pour préparer mentalement les enfants au retour en classe. Mais qu'en est-il dans les établissements, qu'ils soient publics ou privés? Comment se prépare-t-il à cette rentrée? Élément de réponse avec Lukin Zao.
Dans les écoles, tant publiques que privées, c'est la rentrée administrative. C'est-à-dire, ceux qui gèrent les écoles sont déjà de retour. Ils reçoivent les parents d'élèves qui viennent soit pour inscrire leurs enfants, soit payer déjà la compte ou encore retirer les dossiers de leurs enfants en vue du changement d'école. Sami Chibanda, intendant du complexe scolaire Mafuta, une école privée en Galema, nous parle de leur préparation.
Nous sommes déjà préparés dans tout le plan pour accueillir nos enfants sur l'enseignement, les formations, les enseignants sont encore en cours. On continue toujours à attendre les nouveaux inscrits.
Les écoles primaires publiques ont fait savoir leur désiderata, comme nous dit Souki Benjamin, directeur adjoint de l'EPKENGO dans l'enceinte de l'ITC Ngalema.
Nous avons d'énormes difficultés, surtout en banc. Avec 2 marqueurs par semaine, un enseignant peut consommer 2 à 3 marqueurs en 5 coups. Ça ne convient pas avec le peu de frais de fonctionnement que nous recevons. Parce que c'est une école de gratuité, on ne demande rien aux parents.
Les parents rencontrés dans les écoles ont aussi évoqué des difficultés, mais assurent qu'ils vont répondre à leurs devoirs.
On ne peut pas lâcher nos responsabilités. Seulement avec la vie, en tout cas, nous avons des difficultés de pouvoir acheter les fournitures scolaires pour nos enfants.
Écoles et parents, malgré des difficultés exprimées, disent se battre pour une bonne rentrée scolaire.
Intéressons-nous à présent à la rentrée scolaire 2025-2026 à Kisantu au Congo central. À l'approche de la rentrée, à un groupe d'élèves issus de différentes écoles de Kisantu dans le territoire de Madimba a reçu ce mercredi 20 août des kits scolaires offerts par l'ASBL Action pour la Renaissance des Madimba ARM. Selon son promoteur Richard Mavoka Mankatu, cette initiative vise à faciliter l'accès à l'éducation, améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et soutenir la vision du chef de l'État en matière d'éducation. Le point avec Nana Purish Mambou.
Ces fournitures scolaires sont composées notamment des sacs, cahiers, stylos, rames papier duplicateur. Sa distribution à un échantillon des élèves de plusieurs écoles publiques de la cité de Kisantu a eu lieu au terrain Sonangol de Kisantu en présence de la notabilité de ses coins. Les promoteurs de l'action pour la renaissance des Madimba ARM en sigle qui a fait ses dons donnent ses motivations derrière cette action. Donnent ses motivations derrière l'action de son association qui œuvre pour la refondation du territoire des Madimba. Richard Mavoka Mankatu.
L'activité de ce jour s'inscrit justement dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, notamment dans son volet de la gratuité de l'éducation de base et aussi le volet infrastructure.
En dehors des kits scolaires, Richard Mavoka a aussi doté sa communauté des équipements de forage d'eau, d'une machine à fabriquer des briques, d'un groupe électrogène, d'un podium de scène et instruments de musique, ainsi que des vareuses de football pour les jeunes de Madimba. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaunga, tape du poing sur la table pour mettre fin à la persistance de la perception illégale de 10 dollars américains par tonne sur les produits agricoles d'exportation par l'Office congolais de contrôle OCC. Cela soit 150 et 300 dollars américains par véhicule transportant des produits destinés à l'exportation en mettant les bouchées doubles pour faire respecter la suppression de cette taxe qu'il qualifie de toxique. Stanislas Djoumi nous fait le point.
Cette intervention du ministre du Commerce extérieur fait suite aux plaintes et dénonciations de l'Association des exportateurs du cacao-café de la RDC et de la Fédération des entreprises du Congo FEC, groupement territorial de Bénin, mais aussi dont l'objectif est de consolider l'amélioration du climat des affaires en RDC. Le pays vient de ratifier l'accord de facilitation des échanges commerciaux de l'Organisation mondiale du commerce, MOC. Selon des sources et du ministère du commerce extérieur, le directeur général de l'OCC, Étienne Chimanga, est sommé de fournir dans un délai de 7 jours des explications claires sur cette taxe toxique, pourtant supprimée par le ministre du commerce extérieur, Julien Paluku Kaunga, dans sa lettre du 7 février 2024. Celle-ci violait les instructions de la tutelle et les dispositions légales. Cette décision du ministre du Commerce extérieur est très saluée par les associations des exportateurs et la Fédération des entreprises du Congo, FEC.
Actualité internationale.
Il n'y a plus aucune chance de retrouver en vie les quelques 25 personnes toujours portées disparues après le naufrage survenu dimanche dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré ce mercredi 20 août un responsable de l'Agence nationale des secours. Le drame s'est produit le 17 août au matin lorsqu'un bateau transportant plus de 50 passagers vers un marché fluvial dans l'état des Sokoto a chaviré. Le jour même de l'accident, 25 personnes ont été secourues, a indiqué Aliou Kafindaki, responsable des opérations de l'Agence nationale des situations d'urgence pour l'état des Sokoto. Il a également précisé que Trois corps avaient été repêchés mardi. Dans l'état actuel des choses, les opérations de recherche et de sauvetage ont été suspendues car après 24 heures, il n'y a plus aucune chance de retrouver des survivants, a-t-il affirmé.
L'invité.
Un message de paix porté à vélo. Le cycliste congolais Miguel Masaïsaï a accompli un exploit remarquable, relier la ville de Goma à la ville de Cape Town en Afrique du Sud, uniquement à vélo. Une aventure de 3 mois à travers 6 pays dans le cadre de son projet Pedal for Peace, comprimé Pédaler pour la paix. À travers cette initiative, Miguel Masaïsaï souhaite sensibiliser le monde à la situation de guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo et encourager l'engagement collectif pour la paix. Il revient sur ses motivations et son parcours dans cet entretien avec Vanessa Kongolo.
Miguel Masaïsaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cycliste congolais, vous avez lancé un défi, Pedals for Peace. Vous avez quitté Goma jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ces périples?
Ce qui m'a motivé à faire ces périples, c'était la souffrance que je vois que nous sommes en train de vivre, surtout qui est causée par rapport à la guerre. Et je me suis dit, étant un jeune sportif de la République démocratique du Congo, je peux aussi faire quelque chose pour voir si on peut trouver la paix chez nous au Congo. Et je me suis dit que les seules armes que j'ai, c'est mon vélo, parce que je suis sportif. Et le vélo, c'est une arme qui est pacifique. Et je me suis dit, j'ai pris mon vélo, j'ai commencé la route juste pour porter un message de paix à travers l'Afrique.
3 mois après, vous avez quitté Goma le 17 mai et vous êtes arrivé à Cape Town. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face?
Beaucoup de difficultés en route. Des places pour dormir, c'était compliqué parce que je n'avais pas de sponsors durant tous les trajets. Des animaux dans les parcs, j'ai traversé des parcs avec des animaux sauvages. C'était parmi les difficultés, parfois les problèmes mécaniques avec mon vélo. Donc, c'était compliqué.
Comment avez-vous été reçu dans différents pays par lesquels vous êtes passé?
Dans tous les pays par lesquels je suis passé, j'ai été bien reçu. Et les Congolais m'attendaient pour m'accueillir, mais également il y a d'autres personnes qui m'accueillaient, surtout et me donnaient des places pour porter mon message, pour parler du message de paix.
Alors parlons justement du passage dans différents pays et les messages de paix. Vous êtes aussi passé par le Rwanda. On sait que les deux pays sont en conflit. Et comment est-ce que vous avez été accueilli sur place au Rwanda?
Pour le Rwanda, j'ai traversé le Rwanda parce que c'était parmi mon chemin donc pour aller à Tanzanie.
Alors, parlons justement du message. Quel a été le message que vous avez porté tout au long de votre périple?
Mon message était la paix et l'unité de la jeunesse africaine.
Et comment vous l'avez partagé?
J'ai organisé des conférences avec des jeunes. J'ai été invité à des radios, des télévisions, dans des églises, partout en cours de route. J'ai parlé de la paix chez nous au Congo et de la situation qui se passe chez nous.
Alors, vous êtes arrivé à Cape Town le 10 août dernier. Quel est le message fort que vous lancez après ces longs périples pour la paix dans l'est du pays et surtout aussi dans toute la région du Grand Lac?
Donc, le message que j'ai pour mon pays, pour la paix, j'ai dit ceci. Nous devons être unis pour que nous ayons la paix, mais également nous devons multiplier des petites actions comme je l'ai fait Pedals for Peace pour que nous ayons la paix. Parce que la paix, premièrement, ça commence par la conscience. Si on est conscient que nous voulons la paix et nous développons cette conscience pour la paix, nous aurons la paix. Mon message est soyons conscients pour la paix chez nous, parce que ça nous concerne tous.
Et aux jeunes qui vous suivent et qui sont dans les groupes armés et partout?
Aujourd'hui, sont dans les groupes armés, j'étais très conscient et de multiplier des actions pacifiques dans les pays. Parce que si on n'est pas conscient et on s'est fait utiliser, il n'y aura pas la paix. Parce que la paix nous concerne et à partir de la paix, nous serons aussi développés comme d'autres pays si nous avons la paix.
Miguel Masaïsaï, Radio Okapi vous dit merci.
Merci à la Radio Okapi et merci à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Merci.
Notre invité Miguel Massaï-Saï qui parlait de son projet Pedals for Peace, une initiative personnelle à travers laquelle il contribue à sa manière à la recherche de la paix en République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal sur Radio Okapi. À la mise en onde, Jean-Claude Nsiala, à la supervision Alain Hirong, à la présentation Gisèle Cage. Merci de votre fidélité. Vous pouvez réécouter ce journal en podcast et le retrouver sur nos différentes plateformes numériques. Portez-vous bien.